Radio Starbucks.
Morning edition from NPR News.
France Inter, le 18-20.
Et un jour dans le monde rebaptisé en un jour en Europe. Ce soir, nous sommes en partenariat avec le European Lab de Lyon, 8e édition, un forum qui commence aujourd'hui, qui essaye par la culture, par la jeunesse aussi, de parler au cœur et aux tripes des citoyens européens que nous sommes, par des initiatives qui doivent nous extraire de l'impuissance, du fatalisme, réveiller quelques utopies, on y viendra. Et pour cause, il y a plusieurs manières, plusieurs façons de voir l'Europe. Aujourd'hui, force est de constater que, naturellement, ce qui vient à l'esprit, ce sont les mots populisme, nationalisme, peut-être aussi technocratie, inégalité, qui par ailleurs emmène précisément à ce populisme qui est partout. Voilà en tout cas ce qui fait le plus de bruit, ce qui semble inaudible, parle de peuple, de frontières ouvertes, de projets, de contrat social nouveau, ce sont vos propres mots, monsieur Glucksmann qui est là, d'une autre Europe aussi, pas tant, ou de pas d'Europe du tout d'ailleurs, parce qu'après tout, si on n'y prend pas garde et si on ne bouge pas maintenant, nous pourrons peut-être être la génération qui verra mourir le rêve européen, qui elle voit déjà en tout cas ployer sous les coups de la peur de l'eau. Alors essayons quand même d'aller chercher des occasions de nous réjouir, allons chercher ce qui se passe ailleurs, ce qui se dit ailleurs, ce qui se joue partout. C'est aussi l'un des enjeux de ce European Lab, cette veille de 8 mai, faut-il le rappeler, et du 9 mai aussi, journée de l'Europe. Souvenons-nous quand même que c'est là, dans cette immédiate après-guerre, que l'idée d'une Europe sans guerre est née. C'est là que la nécessité de l'Europe s'est jouée. Essayons quand même donc de ne pas l'oublier. 18h55, Jean-Marc Faure sera là aussi pour nous rappeler justement ce qui se passe à côté. Peut-être que c'est le revers de l'Europe, celle de Vladimir Poutine qui est à nos portées. Bonsoir à tous.
Fabienne Saint-Fès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Raphaël Glucksmann.
Bonsoir.
Vous êtes l'essayiste et le journaliste qu'on connaît. Vous dirigez le nouveau magazine littéraire. Vous êtes chez nous sur France Inter tous les dimanches avec Ali Badou en face de Natacha Polony. Bonsoir Dimitris Alexakis.
Bonsoir.
Vous êtes auteur de théâtre, pardonnez-moi. Vous êtes animateur d'un lieu de création artistique. Voilà ce que je cherchais. Mmh. Vous êtes rentré en Grèce. Vous allez nous expliquer dans quelles conditions et pourquoi et surtout ce que vous y faites. Et puis Vincent Carry est avec nous qui porte le European Lab justement et aussi les nuits sonores à Lyon, dans le bureau de Radio France à Lyon. Bonsoir Monsieur Carry.
Bonsoir.
On vous salue et vous intervenez évidemment comme vous le voulez. Je faisais cette allusion, Raphaël Glucksmann, au 8 mai tout à l'heure, en regardant cet encart que se sont achetés, ont payé les Klarsfeld dans le Figaro ce matin. Je ne sais pas si vous l'avez vu et si vous l'avez lu, qui dit aujourd'hui les pulsions nationalistes, antisémites et xénophobes s'intensifient en Europe. Les partis populistes ont remporté les élections en Italie, en Autriche, en Hongrie, en Pologne, en Slovaquie. L'extrême droite a fait irruption en Allemagne, reste puissante en France, en Belgique, aux Pays-Bas, progresse dans les autres pays de l'Union européenne, et conclut par cette phrase: le peuple français doit réagir, montrer l'exemple comme il l'a fait précédemment, notamment en mai 2017. Il faut que les citoyens s'engagent, soutiennent le renouveau de la France et participent à un nouvel élan européen. J'imagine que vous ne renieriez pas ce qui est écrit ici, et surtout le souvenir, le parallèle avec un 8 mai qu'on a peut-être tendance à oublier. Non, en
je
fait.
Pense que nous vivons un moment de bascule et que effectivement les mouvements nationalistes, les mouvements de repli, les mouvements de rejet prospèrent et menacent la construction européenne. Mais par contre, je pense qu'il faut aussi s'interroger sur les causes de l'essor soudain de ces mouvements nationalistes. Il faut s'interroger sur ce que nous avons fait de l'Europe, ou plutôt ce que nous n'avons pas fait de l'Europe, et ce qu'une technocratie a fait du projet européen. On est quand même très loin du rêve hugolien des États-Unis d'Europe et d'une démocratie européenne.
Et on va y venir, mais en préparant cette émission, je reviens en 2014, aux élections européennes précédentes, qui parlent de secousses salutaires, parce que les populismes sont déjà là, en train de frapper aux portes, parfois déjà bien arrivés. Et puis vient 2016, et puis vient le Brexit, et puis viennent les très grands voisins américains à côté, et à nouveau, on entend parler de ce sursaut sanitaire. Pardon, mais qu'est-ce qu'on a fait ces 5 dernières années, quand on l'a vu arriver, qu'est-ce qu'on a fait pour dire exactement la même chose 5 ans plus tard?
Mais précisément, on n'a rien fait. Et c'est tout le problème, c'est que à chaque fois qu'une secousse arrive, on joue l'étonnement absolu et on explique que désormais plus rien ne sera pareil. Et ensuite, après 2 mois, on vit dans une société du zapping, eh bien, tout recommence comme avant. Et c'est un problème immense. Et le problème, c'est que nous ne voulons pas, enfin nos élites en tout cas, prendre la mesure du déséquilibre profond que connaissent à la fois nos démocraties libérales et la construction européenne. Un déséquilibre de sens, un déséquilibre social, un déséquilibre de d'adhésion et qui fait qu'aujourd'hui, sincèrement, le piège qu'il faudrait éviter, c'est de se dire soit on défend l'Europe telle qu'elle est, soit on est souverainiste. Parce que le résultat de cela, si l'alternative c'est simplement ça, s'il n'y a pas la possibilité de créer quelque chose d'autre, d'aller dans un autre sens au niveau européen, eh bien on finira par assister au démantèlement de ce projet post-national. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement fragile. C'est pas naturel. Jusqu'ici, on a toujours identifié la démocratie et la nation en France. Et là, on essaie de construire un espace post-national, mais qui a du mal à devenir démocratique, enfin qui ne devient pas démocratique. Et c'est là tout le problème. Et donc, toute la mission qui nous incombe, c'est d'arriver à rendre cette construction enfin démocratique. Et donc, c'est pas simplement s'opposer au populisme, dire « oh là là, c'est très mal » et rappeler la mémoire qui va nous permettre de réellement sauver l'Europe.
Dimitris Alexakis, vous, j'ai presque envie de dire que c'est double peine en Grèce, en fait. Il y a d'abord le choc de la crise, et puis il y a aussi le choc des migrants aussi. On a un peu tendance, précisément, pour chercher une cause à ce qui ne va pas, dire « ah oui, mais c'est la faute des migrants ». C'est une espèce de manière de trouver quelque chose de purement conjoncturel, en fait. Est-ce que c'est comme ça que vous le voyez aussi ?
Le lien est important, c'est-à-dire qu'on est passé en l'espace de quelques semaines ou même quelques jours dans les médias européens, dans les médias français, allemands, etc., du thème prédominant de la crise grecque au thème de la crise, la dite crise des réfugiés. Et il y a eu plusieurs... disons, d'une certaine façon, pour certains journalistes, pour certains analystes, etc., l'une est venue effacer l'autre, et qu'on s'est pas du tout posé la question du lien entre les deux, c'est-à-dire que on s'est pas du tout, par exemple, posé la question du marchandage, presque sous forme de chantage, dont le lien, le passage...
Si vous vous occupez des migrants, on vous aidera dans votre économie.
De l'une crise à l'autre a été fait. Donc, on a continué, si vous voulez, à parler de crise périphérique, d'épiphénomène périphérique, ce qui est chaque fois, en fait, une façon de ne pas parler de la vraie crise, de la crise structurelle, ou des multiples crises structurelles qui affectent l'Europe en son sein, qui sont par exemple une crise extrêmement profonde de la notion de droit, à partir du droit d'asile, donc à partir du droit des étrangers, mais qui finalement, évidemment, et comme ça se passe toujours dans l'histoire, affecte l'ensemble des droits. Une crise de la finance qui a commencé en 2008, et qui montre dans la façon dont elle s'est immédiatement ou presque immédiatement répercutée en Europe, et notamment évidemment dans les pays du Sud, qu'on a affaire beaucoup plus, en tout cas de façon structurelle, à une Europe financiarisée qu'à une Europe politique, etc., etc. Donc, on continue à parler de petites crises accidentelles, périphériques, qu'on repousse au loin, sans jamais mettre au centre de la discussion les crises qui sont absolument centrales.
Raphaël Luxman, vous parlez de changer le contrat social, justement, pour changer de ce, sortir de ce paradigme, en fait, totalement. Ça veut dire quoi, changer de contrat social réellement ? Parce que moi, ce que je lis derrière, c'est plus de solidarité, par exemple. Mais c'est précisément ce qu'on ne veut pas en Europe en ce moment. En tout cas, c'est ce qui ressort des votes et de tout ce qu'on entend autour de nous.
Mais bien sûr, mais il y a une bataille à mener, et cette bataille, elle est à travers toute l'Europe. Il y a une bataille à mener, et honnêtement, aujourd'hui, la bataille culturelle, la bataille idéologique, elle est perdue par ceux qui veulent plus de solidarité à l'égard des migrants, mais aussi à l'intérieur des peuples européens. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est cette bataille-là qu'il faut mener. Mais cette bataille-là, on ne la mènera pas au nom de Juncker contre les nationalistes. On la mènera au nom d'autres idées. C'est pour ça que nous, au Magazine Littéraire, on a fait appel à des écrivains, à des historiens, à des sociologues, pour qu'ils essayent de réinventer autre chose qui s'appellerait l'Europe et qui ne soit pas un défilé de technocrates imposant des dérégulations favorisant la finance. Et donc là, il y a une bataille culturelle à mener, mais cette bataille, ça doit être extrêmement clair dans la tête des gens. C'est pas une bataille de défense de Barroso, Juncker et de Bruxelles, tel que Bruxelles existe aujourd'hui.
Vous ferez descendre personne dans la rue pour défendre cette Europe-là, de toute
Bien
façon.
Bien sûr, mais évident. Et puis moi, je ne descendrai pas dans la rue pour défendre cette Europe-là, parce qu'il y a un problème structurel, ça a été dit. Le problème structurel, il est simple. C'est tant La démocratie libérale européenne ne marche pas sur ses deux pattes, c'est-à-dire une patte de préservation des droits individuels, des droits privés, qu'on appellera le libéral de démocratie libérale, et une patte démocratique. Démocratique, ça veut dire la création de solidarité qui forme un peuple. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que la construction européenne et les constructions démocratiques, politiques dans nos pays, sapent ce pôle-là, sape cette patte-là. Et donc, on se retrouve dans une situation où il ne reste que des sociétés d'individus atomisés et finalement, l'irruption de colère qui sont des colères qui se traduisent par du nationalisme.
Et peut-être que l'une des solutions, on la trouve en ce moment à Lyon, dans ce genre d'initiative. Je ne vous ai pas oublié Vincent Carré, je voudrais qu'on écoute Alabama Shake, qui, comme son nom l'indique, vient des États-Unis, mais comme il vient de la ville d'Athènes, Alabama, on y est presque. Allez, I found you. I'm gonna love you with all of my heart. And if there is no more time, it's always remains. Even as the world spins itself apart. 'Cause I remember the day I waited so patiently for God to bring someone who's gonna be good to me. Shake sur France Inter, I found you. On va aller partir dans des endroits différents dans cette émission aujourd'hui, voir justement comment les choses se façonnent et se font en Allemagne et aussi en Grèce. En Allemagne d'abord, direction Berlin, où vient de se tenir, c'était cette fin de semaine, l'édition annuelle de Republika, une conférence internationale suivie beaucoup sur le thème du numérique, experts, blogueurs, activistes, etc. Et puis, beaucoup aussi de citoyens qui se sont donné rendez-vous pour partager leurs expériences, pour réfléchir à une autre Europe qui serait plus démocratique et serait plus connecté. C'est le reportage de Cyril Sauvageau, écoutez-le.
Le décor est on ne peut plus berlinois. Des anciens hangars de la Poste, réhabilités et transformés en centre culturel. C'est ici, à la Station Berlin, qu'a lieu chaque année le festival Republika. Entre les DJ, les start-up de réalité virtuelle et les conférences sur l'identité numérique, un atelier un peu particulier retient l'attention cette année.
So everyone now will speak only 4 minutes about what they are up to.
On est ici pour parler politique et avenir de l'Europe, mais pas de longs discours pour la dizaine d'ONG et de groupes activistes présents. Chacun dispose de 4 minutes chrono pour présenter son projet. Le Game Parler est une association de gamers basée à Hambourg, Maria, l'une des fondatrices.
Nous sommes venus ici pour proposer la création d'un jeu à l'échelle européenne. Ce jeu consisterait à mettre en place des parlements citoyens virtuels dans les grandes villes et les faire interagir. Le gaming est un bon moyen d'impliquer les gens autrement dans le combat politique, plutôt qu'en collant des affiches, en distribuant des flyers ou en expliquant à quel point tout va mal. Cela peut permettre de donner l'exemple à ceux qui ne croient plus en la politique, leur montrer à quoi peut ressembler une vraie alternative.
Le jeu vidéo comme mode d'engagement citoyen, l'idée peut paraître farfelue, mais tous ici ont en commun le recours aux nouveaux outils numériques, y compris les mouvements structurés comme de véritables partis politiques. Exemple, Démocratie in Bewegung, la démocratie en mouvement, un tout jeune parti fondé il y a un an en Allemagne et qui a recueilli quelques dizaines de milliers de suffrages aux dernières législatives.
Ce n'est un secret pour personne, la démocratie participative ne fonctionne plus, les citoyens se sentent déconnectés de leurs élus. Nous sommes partis de ce constat pour développer ce que nous appelons le principe d'initiative. C'est une stratégie qui vise à prendre en compte les idées des citoyens dans notre programme. Le concept est très simple. Sur notre plateforme en ligne, n'importe qui peut soumettre une proposition. Ensuite, un groupe d'experts est chargé d'analyser ces idées pour en faire des initiatives concrètes. Enfin, il y a un vote en ligne ouvert au public pour décider si la proposition doit être intégrée ou non à notre programme.
Impliquer davantage les électeurs, leur redonner foi dans le jeu démocratique, l'ambition partagée par ces mouvements horizontaux n'est pas très éloignée au fond de ce que propose Emmanuel Macron avec son projet de dialogue citoyen. Encore faut-il que les initiatives du président français aboutissent. Daphné fait partie du réseau activiste European Alternatives.
Ce qui dit Macron, je le vois de deux côtés. D'un côté, je le vois très positif qu'il a proposé ce qu'il a, je pense, nommé des consultations citoyennes. Mais on n'a vu rien concret de comment exactement les citoyens vont vraiment être impliqués. Parce que si on va faire de la participation civique, mais il n'y a pas de but, il n'y a pas vraiment de comment faire les institutions démocratiques, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer. Si cette promesse n'est pas tenue, je pensais à un danger que encore plus de gens se sont trahis.
Tous reconnaissent au président français le mérite de tenter quelque chose et de faire parler d'Europe. Mais sans une réforme en profondeur de l'Union européenne, le populisme finira par l'emporter. Un sentiment d'urgence que partagent tous ces jeunes militants engagés pour un idéal européen auquel ils croient encore.
Parce que tout n'est pas perdu. Raphaël Glucksmann, je vous voyais rire sur les 4 minutes chrono pour présenter son projet, le jeu démocratique JEU. Mais après tout, pourquoi pas ?
Bien sûr, pourquoi pas ? Je rigolais juste en me disant que ça serait compliqué pour moi parce que j'ai tendance à faire des tunnels et à parler trop longtemps.
Non, c'est bon, on pouvait rester quand même. C'est le speed dating de l'Europe. Vincent Carry, moi je trouve que cette initiative à Berlin, elle ressemble à ce que vous faites à Lyon finalement. Et aussi dans l'idée finalement que il y a que ce qui est hors structure qui fonctionne aujourd'hui, qui peut être entendu et écouté par cette génération qui, si tout va bien, vote aux élections européennes.
Oui, on a des points communs en effet avec Republika à Berlin. C'est des gens d'ailleurs avec lesquels on est en contact très régulièrement. Nous, on a découvert en fait au bout de 15 ans de travail culturel sur tous les terrains européens qu'il y avait des générations d'acteurs, d'activistes, de porteurs de projets, de tiers-lieux, de web radio, de labels, de festivals, d'universitaires, etc., qui partageaient un désir d'engagement qui se place un peu dans une perspective post-fataliste. Hein, c'est ce que je retiens aussi de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qui, au-delà de la bataille contre les populismes et contre leurs racines, au-delà de la question de l'État dans lequel se trouve le projet européen et du malaise technocratique, au-delà des luttes contre les travers de l'ultralibéralisme, etc. Toutes ces générations, elles se sont retroussées les manches et elles sont allées très concrètement faire des choses, porter des projets, inventer des alternatives, porter des causes partout dans toute l'Europe. Et un des enjeux de nos outils, et je pense à European Lab en disant ça en particulier, mais à beaucoup d'autres en Europe évidemment, un des enjeux des outils qu'on essaie de créer, c'est de relier ces communautés, de relier ces générations et de faire en sorte qu'elles puissent agir ensemble parce que séparément, elles ne pourront pas constituer une force de transformation.
Et en même temps, moi je ne peux pas m'empêcher tenter de me souvenir de ce que disait par exemple le vote au moment du Brexit, Raphaël Glucksmann, sur le vote des jeunes. Donc c'est ces jeunes à qui on s'adresse dans ces lieux-là, mm-hmm. dans ces tiers-lieux, à Berlin, à Lyon, etc. Ils n'y vont pas aux urnes. Qu'est-ce que vous leur dites, enfin, vous?
Les jeunes, ils ont voté majoritairement contre le Brexit.
Oui, mais ils étaient très peu nombreux. Ils étaient très peu nombreux à y aller. Oui, absolument. Et ils ont même été très en colère après contre les vieux, soi-disant, qui avaient voté. Sauf que si on n'y va pas soi-même, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on dit pour réveiller ce rêve européen? Qu'est-ce qu'on leur dit à ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'on leur offre, à part effectivement cette Europe de Juncker dont vous parliez tout à l'heure?
Bah, pour l'instant, le problème, c'est qu'on leur offre l'Europe de Juncker. Mais la chose qui vient d'être dite est totalement vraie. Je veux dire, partout en Europe, il y a des mobilisations qui viennent de la base, de gens qui ne veulent pas voir se déliter sous leurs yeux cet espace qui est un espace à construire et à conquérir et qui aujourd'hui est en passe de se déliter. Et donc il y a des initiatives mais qui traversent le monde culturel, le monde associatif, qui sont à mon avis des germes, des laboratoires de ce que peut être une Europe concrète et ancrée dans des lieux. Et c'est ça qu'il faut absolument, à mon avis, encourager, développer, et ça doit se traduire, cela, par un réinvestissement du champ même métapolitique d'abord et politique européen ensuite, parce que c'est impossible, réellement impossible, de laisser l'Europe aux seuls libéraux, la cause européenne aux seuls libéraux et la cause des solidarités sociales aux seuls nationalistes souverainistes. Il y a un espace là à constituer, et si on ne constitue pas cet espace, eh bien finalement on va accepter que l'Europe se délite. Et donc il faut absolument que ces rencontres aient lieu, que finalement les initiatives qui aujourd'hui sont encore éparses, éparpillées, fusionnent, discutent, dialoguent, et que de ce dialogue émerge quelque chose qui soit pas l'Europe des petits pas technocratiques, qui soit justement un autre biais. Vous savez qu'aujourd'hui, on regarde le budget européen, parce que le budget, c'est toujours intéressant. Eh bien, la PAC représente 10 fois plus, je crois, que Erasmus et les échanges éducatifs et culturels en Europe. Ça veut dire qu'il y a un problème dans la manière dont on construit l'Europe. On a renoncé à construire un imaginaire européen commun. Sur les billets de banque d'euros, il y a des structures métalliques qui...
Des ponts
qui sont incapables d'éveiller la moindre émotion. Ensuite, on a un ministre des Finances luxembourgeois qui dirige, donc un paradis fiscal, qui dirige la Commission européenne. Je veux dire, c'est comme si tout était fait pour qu'il n'y ait plus de rêve européen possible. Donc il va falloir, ce rêve européen, le faire pousser du sol.
Vincent Carry, le rêve européen, effectivement, des petits morceaux de rêve européen, en fait, qui sont là dans des structures, dans des forums comme les vôtres. Et en même temps, je vous ai entendu dénoncer à plusieurs reprises le silence assourdissant, vous disiez, des artistes, notamment, c'était au moment du FN en France, mais moi j'ai l'impression qu'on pourrait dire la même chose parfois, vous allez me dire si je me trompe, des artistes du monde culturel autour de ces montées de populisme en Europe. Est-ce qu'il faudrait les entendre plus? Est-ce que vous voudriez les entendre plus pour que ça ait une résonance? Et évidemment, on posera la question à Dimitris Alexakis dans un instant.
Ah oui, on veut les entendre davantage, mais ceci étant, les choses ont quand même changé depuis le moment où on avait fait cette interview dans Libé. Il nous semble qu'il y a quand même eu une réaction qui est apparue il y a, je dirais, entre 18 et 24 mois. Et nous, on a ressenti le fait que beaucoup plus de gens étaient en train de s'engager, de monter au créneau pour essayer de trouver des solutions et de se solidariser pour répondre collectivement, en fait, aux défis.
En gros, si on se fait pas peur, on fait rien. C'est dès qu'on se fait peur, on commence à agir. C'est ça que vous êtes en train de dire en creux?
Bah, là, il y a de nombreuses raisons de se faire peur. Hein. Nous, on a sur le forum cette année à Lyon, en tout cas, des focus sur le sujet de la Pologne, par exemple, les problématiques qui se passent partout en Europe de l'Est, etc. Mais on a aujourd'hui des auteurs, par exemple, des personnalités. Je pense à Camille de Toledo, par exemple, à Tristan Garcia. On a ce soir Aurélien Bélanger qui vient parler sur le forum. On a énormément de gens. On a aussi des artistes, hein, même de la scène électronique. Par exemple, on a Jennifer Cardini ou le groupe allemand DAF, Gabi Delgado, etc., qui viennent porter une parole, en tout cas essayer de participer au débat, de s'engager, et ça c'est relativement nouveau.
Dimitris Alexakis, votre tiers-lieu à vous, il s'appelle Quête, l'atelier de réparation de télévision. C'est à... Vous l'avez mis dans un autre quartier que le quartier culturel habituel, on va dire, d'Athènes. C'est quoi votre rôle à vous dans cet instant que traverse l'Europe? Comment vous voyez-vous? Qu'est-ce que vous apportez? C'est quoi votre pierre à l'édifice, vous, l'auteur que vous êtes?
Ben, nous, on fait partie d'un mouvement de lieux qui sont apparus à partir de 2011-2012, c'est-à-dire au moment où la crise, la précarisation, les plans d'austérité commençaient à montrer leurs effets dans toute la ville, puisqu'on est à Athènes. Après, disons, l'effondrement des politiques culturelles, après l'effondrement des la fin des subventions à la culture de l'État grec, puisque c'est quelque chose qui, depuis, disons, 2011, n'existe plus. Il n'y a plus du tout de subventions à la création. Et donc en réponse, et toujours avec une portée politique et une visée politique, beaucoup de collectifs d'artistes, beaucoup de comédiens, musiciens, etc., ont créé des lieux pour pouvoir continuer à créer, à travailler, et très souvent, comme nous en fait, ont ouvert ces lieux à tous les autres collectifs, compagnies de théâtre, etc. Donc nous, c'est ce qu'on fait depuis 6 ans. Sans moyens, en essayant quand même de trouver des modes de financement alternatifs et qui nous paraissent justes par rapport à ce qu'on fait, par rapport à la parole qu'on porte.
Mais est-ce que vous êtes un passeur, vous êtes un résistant, vous vous qualifiez comment ? Un artiste, bien sûr, mais...
On crée un lieu social, c'est-à-dire qu'on crée un lieu où on essaye de faire en sorte que chacun soit accueilli, qu'il y ait du discours, qu'il y ait de l'imaginaire qui se recrée, et qu'il y ait un espace qui résiste d'une façon consciente ou inconsciente, ouverte ou discrète à ce qui est quand même quelque chose comme une espèce de vague de violence bureaucratique ou technocratique qui s'est abattue sur le pays. Donc il y a quelque chose d'absolument vital qui est de l'ordre de l'expression, du savoir, c'est-à-dire de préserver son savoir, son savoir-faire, et puis évidemment de continuer à faire société. Parce que c'est quand même un petit peu de ça qu'il s'agit, même à notre échelle, puisqu'il s'agit d'un petit lieu.
Raphaël Glucksmann, une question avant un prochain disque. Comment on parle, y compris dans ces lieux-là, comment on parle à ceux qui ont voté contre, à ceux qui ont renoncé? Comment on parle à celui qui ne sortira pas de ses frontières, ni même de son quartier, parce qu'il y est bloqué, parce qu'il y est enfermé, et que c'est cette peur-là, ce déclassement-là, qui l'a amené à voter pour un Orban ou n'importe qui d'autre en Pologne et ailleurs? Comment on lui parle à lui? Est-ce que des lieux comme ça lui parlent? Ou est-ce que finalement on est un peu entre nous là-dedans quand même?
Non, je pense que des lieux comme ça, c'est justement le contraire de l'entre-soi. Mais je pense que la manière dont on lui parle, c'est pas en le culpabilisant a priori ou en hurlant son indignation morale face à son vote. La manière dont on parle, c'est d'essayer d'expliquer que, quels que soient les périls qui menacent, la réponse ne pourra pas être une réponse d'ordre national. Que donc, si on prend le réchauffement climatique, si on est sérieux sur le risque climatique, sur le risque que fait peser le réchauffement climatique sur la civilisation humaine en général, sur notre terre, sur notre mode de vie, eh bien, on a besoin de l'Europe. Si on prend le risque de la mondialisation néolibérale, des multinationales qui en savent plus sur nous que nos États, eh bien, nous avons besoin de l'échelle européenne pour mener ce combat. Si nous prenons toutes les autres causes, si nous prenons même le terrorisme, nous avons besoin de l'échelle européenne pour lutter contre le terrorisme. Et donc, il y a un besoin immense d'une échelle européenne pour des causes, pour des lutter contre des périls, et il y a besoin que cette échelle européenne soit changée, et que donc on a besoin que cette colère qui s'exprime, eh bien, elle fasse gagner un débat au sein des populations européennes, mais pour changer la manière dont est orientée l'Europe, pas pour casser l'Europe, parce que pour casser l'Europe, pour faire quoi? Pour s'enfermer derrière des barbelés? On sera tous un jour prisonniers des barbelés qu'on crée.
Mais ils sont déjà là, c'est ça le problème.
Bien sûr, ils sont là. Mais ils sont là, c'est le signe d'élitement du projet européen.
Ils sont déjà là, ils sont tragiquement là. Et donc, il y a un moment où il faut quand même casser le truc, quoi. C'est ça, je crois, le problème. C'est-à-dire, tu peux pas passer d'une Europe telle qu'elle est construite maintenant à quelque chose d'autre dans ce cadre-là, avec les barbelés. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dois enlever les barbelés.
Bien sûr, il faut enlever les barbelés.
C'est pas possible. Mais tout le reste.
Mais le discours, quand on parle de retour aux frontières nationales, par exemple, c'est un discours qui vise à ériger des barbelés, au sein même des barbelés qu'on a.
C'est aussi un problème de méthode. C'est-à-dire que, quel est le passage de l'un à l'autre? Si on imagine le passage d'une Europe, extrêmement autoritaire, financiarisée, extrêmement hostile à l'étranger, qui a transformé en partie, qui est en partie grandement responsable du fait que la Méditerranée est la frontière la plus mortelle, disons, au monde actuellement. Comment est-ce qu'on passe de cette Europe-là à une autre Europe? On passera pas de cette Europe-là à une autre Europe dans le cadre existant.
Donc ça veut dire qu'on les arrache, ces barbelés?
Elle n'est pas réformable à tout niveau, pas seulement, je ne parle pas du tout uniquement du niveau de la finance, du niveau économique. Je pense que à plein d'autres niveaux, qui sont des niveaux symboliques, qui sont la façon dont on construit. C'est extrêmement important. L'extra-européen, parce qu'on parle tout le temps de l'Europe, alors qu'en fait,
mais du coup, si
je crois que la seule solution, c'est quand même de définir l'Europe par rapport à son autre.
Pour aboutir à ce démantèlement des barbelés, c'est pas les votes nationalistes qui vont permettre de faire ça.
Non, mais la question se pose de façon extrêmement aiguë, parce que on n'a aucune réponse.
Mais quand vous dites qu'elle n'est pas réformable, Dimitris Alexakis, cette Europe-là, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait du coup? Ça veut dire que même le vote ne fonctionne pas. Quand on dit pas réformable,
une des réponses,
ça veut dire qu'il faut les arracher, ces barbelés, différemment.
Une des réponses qui ont été élaborées en Grèce depuis maintenant des années et des années, c'est la recherche d'alternatives de production, de modes de vie qui sont absolument pas compatibles. Dans le fond, on vient de le voir avec la ZAD, avec l'Europe telle qu'elle est et telle qu'elle empire, la création d'alternatives au niveau local qui, à partir de là, peuvent, et en Grèce, se sont effectivement mises en réseau, jusqu'à ce que ces réseaux finissent par, peu à peu, c'est le cas, atteindre une dimension européenne, mais alors sur une toute autre base, c'est-à-dire sur la base de création de formes de vie qui, dans l'état actuel, ne peuvent absolument pas être acceptées par l'Union européenne. Donc, c'est pas du tout un,
donc
c'est
vent,
pas du tout une
là,
utopie. Hein. Je parle de création de réseaux, de collectifs de quartiers, de collectifs de production agricole, de marchés sans intermédiaire, de dispensaires sociaux, qui peu à peu, de proche en proche, et en créant leurs propres institutions, se sont mis en réseau et finalement ont atteint une dimension européenne.
C'est comme ça qu'on peut faire évoluer les choses, mais à la fin, il faut une traduction politique de ça. Parce que sans traduction politique de cela, vous aurez toujours les mêmes institutions en place.
La première chose, c'est que c'est de la politique. C'est toujours de la politique. C'est-à-dire, notamment en Grèce et aussi évidemment en Espagne, c'était chaque fois des projets de culture, de santé, de réponse à l'urgence, au manque de médicaments, par exemple. C'était toujours des projets qui étaient à la fois de vie, de culture, de coexistence, de société et de politique. C'est-à-dire, c'était toujours des projets qui étaient complètement infusés de critiques contre les plans d'austérité, les mémorandums, etc., etc. Bon. Donc c'est déjà de la politique. Ce qui s'est passé en Grèce, en ce qui concerne la politique, qui est vraiment un vrai problème qui concerne la gauche, c'est qu'à un moment, il a fallu que cet échelon-là de mouvement social, de micro ou de mobilisation de production locale, ait une traduction politique. Et ça a été une catastrophe. Ça a été la catastrophe de juillet 2015. C'est-à-dire que tout ce dynamisme social a été reporté sur une organisation partisane, un parti politique, Syriza, avec une structure centralisée, hiérarchique, etc.
Et avec la suite qu'on connaît.
Donc aujourd'hui, pour nous, très concrètement, c'est vraiment la question du politique. Comment, d'une façon ou d'une autre, on peut réarticuler une réponse politique sur la base de notre activité, de notre dynamisme, mais qui ne soit pas cette espèce de délégation aveugle qui est le parti.
Allez, je voudrais qu'on aille faire un aller-retour à Thessalonique en Grèce grâce à Angélique Kourounis. On se retrouve juste après.
15e salon du livre à Thessalonique, et s'il est bien un endroit où l'on se pose la question de l'utilité de la culture dans la construction de l'Europe, c'est bien ici.
Oh, moi, je crois toujours dans la culture et dans l'imagination et dans la créativité. Il n'y a que ça de vrai. Les politiques passent. Ils font un tour dans l'horizon. Ils ont leur petite méthode plus ou moins constrictive pour les citoyens. Et puis, ils s'en vont. Donc, c'est la créativité qui emporte toujours à travers les siècles.
Elle est déjà construite, l'Europe, à travers la culture. Ce qu'il faut maintenant, c'est la maintenir en vie et surtout créer un esthétisme qui permet au niveau des citoyens d'être entouré de belles constructions architecturales, ce qui manque peut-être aujourd'hui et qu'il faut peut-être continuer à développer comme ça s'est fait depuis des siècles.
La culture peut être salvatrice pour l'Europe. Les gens finiront par comprendre un jour ce qui est juste. La culture, c'est l'essentiel. Et elle l'emportera, c'est ce que je crois, moi. Au final, les gens sont plutôt optimistes. D'autres, comme Vangelo Trakiroglou, directeur du musée juif de la ville, sont plus circonspects.
Il n'y a pas de culture.
Pour qu'il y ait une culture commune, il faut créer une patrie commune à tous. Si moi, salarié grec, n'ai pas, de façon évidente, des intérêts en commun avec le salarié français, espagnol ou italien, eh bien, tout autre mot est vain.
Et cet historien des plus réputés d'enfoncer le clou.
L'esprit commun européen n'existe que sur le papier. Jusqu'ici, l'Europe a surtout fonctionné comme un mécanisme qui ralentissait plutôt qu'il accélérait la construction de l'Union européenne. C'est un mécanisme qui ne cherche pas vraiment à unir les États européens.
À deux pas du salon du livre, la mairie, où le maire, l'iconoclaste Yanis Boutaris, pose sa propre définition de la culture.
La culture, c'est essentiellement une perception sociale, générale, pas seulement les livres, le cinéma, la danse, tout ça, ce n'est qu'une partie de la culture. La définition sociale, pour moi, c'est ça, la culture. J'aspire à une juste répartition des richesses et à une juste prise en charge médicale, à ce que le fruit de mon travail me revienne à moi, pas à quelqu'un d'autre.
En fait, en Grèce, lorsqu'on parle Europe, on pense, vu les 9 ans de crise impitoyable, à économie. Pour Manolis Piblis, directeur du Salon du Livre et traducteur, c'est même indissociable.
L'Europe s'est construite sur la base d'une vision de valeur, mais avec comme véhicule l'économie. Il s'agit d'une Europe au pied d'argile, bien qu'elle aime s'entendre dire qu'elle lutte pour des ententes culturelles et pour l'unification. L'Europe est fragilisée, une grande crise économique, je le crains, pourrait la faire se désintégrer.
Barbara Cassin, 5e femme élue à l'Académie française, était présente au salon, elle était même à l'honneur au sein de la francophonie. Elle ne dit pas le contraire, à quelques nuances près.
Je pense que la culture est... comment dire, l'alpha et l'oméga de l'Europe. Mais ça n'est pas toute l'Europe. Il y a tout ce qu'il y a entre. Entre l'alpha et l'oméga, il y a tout l'alphabet. Bon, alors, on n'évaluera jamais assez fortement la culture, mais la culture ne suffira jamais.
Une chose semble certaine, si la culture ne suffit pas pour construire l'Europe, elle en reste en tout cas un atout majeur.
Très très vite, et en guise de conclusion, Raphaël Glucksmann, il y a une phrase que je retiens dans ce reportage. Pour qu'il y ait une culture commune, il faut un esprit commun européen, et pour l'instant, cet esprit commun, on l'a pas.
Non, et c'est pour ça qu'il faut faire appel aux activistes, aux écrivains, aux historiens, à des gens qui nous parlent de lutte sur les places, de lutte commune. Je veux dire, moi je me sens être un Hongrois qui défile contre Orban. Je me sens être une femme polonaise qui défile pour défendre ses droits. Il y a des luttes comme ça communes, il y a des références communes, mais il n'y a pas de traduction commune de ces références.
Et en un mot, plutôt une personne, si une personne représentait l'Europe aujourd'hui pour pouvoir emmener ces gens-là, c'est qui?
Ça, je ne sais pas. Alors là, franchement, voilà. Vous me posez une colle.
Mais justement, c'est peut-être là que le problème commence aussi.
Oui, bien sûr. Je choisirais une femme polonaise ou Asli Erdogan ou quelqu'un qui lutte.
Les images et les gens. En tout cas, tous les deux, Raphaël Glusman et Dimitri Sossian, on vous retrouve au European Lab de Lyon, pardon, qui a commencé aujourd'hui. Vous y êtes demain et après-demain. Merci aussi de l'autre côté à Vincent Carré qui porte ça sur ses épaules. Le nouveau magazine littéraire Raphaël Glusman qui réinvente l'Europe aussi avec des Laila Slimani et Asli Erdogan en couverture et des écrivains qui réinventent l'Europe, qui nous racontent leur Europe aussi et qui sont pleins d'optimisme et heureusement. Merci beaucoup, merci à tous. On ne va pas tout à fait quitter notre sujet.
Le 18-20, Fabienne Synthèse sur France Inter.
Avec Jean-Marc Four et Le Monde à l'envers. Jean-Marc, on va un peu plus à l'est, en fait, du côté de Vladimir Poutine, qui est peut-être un peu notre contre-exemple européen, d'une certaine façon. Quatrième mandat, en tout cas, c'est parti pour lui. Il a prêté serment ce matin. Et dans votre Monde à l'envers, ce soir, pour boucler la boucle, en quelque sorte, vous êtes en train de vous demander s'il ne faudrait pas, pour nous, Européens, nous rabibocher avec Poutine.
Oui, je vous vois déjà sourciller. Enfin, quand même, Poutine, c'est pas un gentil, je vous l'accorde aisément, nous le savons tous. Il réprime les opposants en Russie, il soutient le boucher Bachar el-Assad en Syrie. Il a annexé une partie de l'Ukraine par la force. Il cherche à influencer les scrutins en Occident par le biais de la toile. Il est soupçonné de faire empoisonner ses opposants, etc. Ok, tout ça est vrai et ça justifie amplement qu'on ait pu se fâcher avec lui. Ce n'est pas un enfant de cœur. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, je vous propose, comme souvent, de faire une pause. On respire un bon coup et on se pose la question, n'y a-t-il pas plus à gagner à se réconcilier avec lui? Premier paramètre, comme toujours, rappel du monde réel. Il est là, ça peut ne pas nous plaire, mais il est là et bien là, confortablement réélu avec 76% des voix, même s'il y a eu des irrégularités, sa légitimité est réelle.
Voilà, ce qui ne fait pas de lui un gentil garçon.
Non, mais quand même, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il y a deux faces chez Vladimir Poutine, le recto, le dirigeant autoritaire et interventionniste, mais il y a aussi le verso. Sur l'autre face, il y a ce que Gorbatchev appelait il y a 30 ans la maison commune européenne. Poutine regarde vers l'Europe, il s'y intéresse, il est simplement inquiet de la présence de l'OTAN à ses portes. Et puis Poutine, c'est aussi un dirigeant qui n'intervient pas partout. Par exemple, jusqu'à preuve du contraire, il laisse se dérouler paisiblement la révolution de velours en cours en Arménie. Un président qui certes emprisonne, c'est vrai, de nombreux opposants, mais fait aussi monter une nouvelle génération de dirigeants, en particulier dans les instances régionales du pouvoir russe. Un chef des armées qui réduit son budget militaire, c'était vrai l'an dernier, ça sera encore le cas cette année. Et enfin, un leader diplomatique qui est sans doute le seul aujourd'hui à pouvoir parler avec toutes les parties au Proche et au Moyen-Orient, israéliens, iraniens, turcs et syriens.
Alors de là, avoir des intérêts communs avec lui, c'est une chose. Je sens que vous allez me dire que oui, c'est le cas. On a plein d'intérêts communs.
Vous lisez dans mes pensées. D'abord, il y a l'intérêt géopolitique. Comme Poutine, les Européens veulent sauver l'accord sur le nucléaire iranien. Comme Poutine, ils ont pour priorité de lutter contre le terrorisme islamiste. Comme Poutine, ils veulent protéger les chrétiens d'Orient. Et puis, il y a l'intérêt économique. Le président russe a besoin d'alliés pour relancer la croissance chez lui. Son pays est ultra dépendant des cours du pétrole et du gaz. Et il est aujourd'hui incapable de débloquer les investissements nécessaires qui relanceraient l'économie et les salaires. La Russie a besoin d'infrastructures routières, d'écoles, d'hôpitaux, de projets numériques, bref, de technologies et de capitaux. Elle ne pourra pas le faire toute seule. Les Européens ont donc une carte à jouer. De son côté, l'Europe a elle aussi besoin d'alliés sur le plan économique. Aujourd'hui, elle est déjà prise en tenaille entre des États-Unis devenus imprévisibles avec Trump et une Chine qui cherche à étendre tous azimuts son empire économique. Donc si l'Europe veut peser, elle a intérêt à jouer la carte Poutine, initier un grand accord cadre de sécurité et de coopération économique avec la Russie. Dans deux semaines, Emmanuel Macron se rend à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Il évoque la volonté d'engager, je cite, « un dialogue historique avec Poutine pour arrimer la Russie à l'Europe ». Chiche.
Allez, chiche, comme vous dites, Jean-Marc Four, merci beaucoup. À demain, on va en reparler d'ailleurs de Vladimir Poutine dans le journal dans un instant. Merci de nous écouter, il est 19h.